On a vraiment de la belle visite en studio. On va vous les présenter dans les prochaines secondes. Actuellement, la météo. Il n'y a pas de pluie. C'est la bonne nouvelle, Audrey.
Ben oui, on la sent venir tranquillement, pas vite, mais elle n'est pas là encore, effectivement.
C'est 20 degrés sur Québec pour aujourd'hui. C'est du soleil toute la journée avec un maximum de 25. Pour ce qui est du facteur humidex, ça va être une température ressentie de 28 selon Environnement Canada. Ce soir, cette nuit, des nuages avec un minimum de 15 degrés. Mardi, c'est des averses avec risque d'orage en après-midi. Pour ce qui est de demain, maximum de 19. Mercredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 23. Pour nous joindre en studio, c'est le 418-971-1021. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, vous êtes nos yeux, nos oreilles.
Je veux dire qu'en ce moment, sur la 20 direction ouest, semble y avoir un bon ralentissement à partir de la route Lagueux. Si vous avez des détails, 418-971-1021, je suis en train de regarder s'il se passe quelque chose de précis, mais ça ralentit pas mal dans ce coin-là. Pour le reste, ça va super bien.
On parle avec le Centre de prévention du suicide, la belle gang du Centre de prévention du suicide. J'ai deux personnes en studio. Alexandra Loranger, qui est formatrice intervenante à la Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec. Salut!
Bonjour, bon matin.
Merci d'être en studio avec nous. C'est très, très apprécié. On va parler, bien entendu, du Centre de prévention du suicide puis des services que vous offrez. Et j'accueille Jasmin Hince, qui est une des plus belles voix de radio qu'on a à Québec. Un gars qui a fait de la radio pendant des années et des années. Qui a,
salut!
Été au Collège Radio-Télévision de Québec pendant quelques années en tant qu'enseignant aussi. Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Très content de t'accueillir en studio. Toi aussi, tu es avec nous pour le Centre de prévention du suicide. Dans ton cas, tu es été touché personnellement par quelqu'un qui a malheureusement pris ce choix-là. On va commencer avec Alexandra. Alexandra, le Centre de prévention du suicide, qu'est-ce que vous offrez comme service exactement?
En fait, ben, le premier service, la base, c'est notre ligne de crise téléphonique, en fait, donc la première ligne. Donc, à n'importe quel moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on peut communiquer avec nous via le 1-866 appel. Suite à ça, ben, on offre divers types de rencontres. Là. Donc, on a toujours la possibilité, nous, ici à Québec, on a des plages horaires réservées pour accueillir des gens en crise à tous les jours. Donc, par le biais de notre ligne téléphonique, vous pouvez prendre un rendez-vous rapidement. On offre du suivi aussi pour les personnes qui ont des idées suicidaires, mais aussi pour les gens qui sont endeuillés par suicide. Donc, on parle d'environ un 10 rencontres. Puis, bien entendu, on fait aussi de la postvention. Donc, si jamais il arrive un décès par suicide dans une famille, dans une entreprise, on se déplace dans les jours suivant le décès pour rencontrer les proches, faire des interventions. Puis l'objectif, c'est de limiter, en fait, les symptômes de stress post-traumatique suivant le deuil, là, effectivement.
Y en a-t-il beaucoup des gens qui, après la perte d'un proche qui s'est enlevé la vie, eux-mêmes tombent un peu au fond là, du gouffre, si je peux le dire comme ça, là?
Oui, absolument. Là, quand on est happé, je pense que je peux le dire comme ça, là, par un deuil, par suicide, par défaut, je pense que ça met plein de choses en perspective. Puis c'est pas rare que les endeuillés par suicide vivent eux-mêmes aussi avec des idées suicidaires suivant le deuil de leur personne proche.
C'est comme une spirale, c'est de l'incompréhension. On va en parler avec Jasmin dans les prochaines secondes. Mais pour ce qui est du centre de prévention du suicide, il y a combien d'employés? Est-ce que c'est des employés, des bénévoles? Comment vous fonctionnez?
On est tous des employés professionnels depuis pas loin de 20 ans, si c'est pas un peu plus. Ouais. Dans certains centres au Québec, il y en a qui ont encore des bénévoles qui sont supervisés par des équipes, bien entendu, d'intervenants spécialisés. Donc, on est tout type d'intervenants. Donc, il y a des techniciens, il y a des bacheliers, on a des doctorants aussi qui viennent travailler avec nous à la ligne téléphonique, mais aussi à nos suivis en personne, là, nos rencontres individuelles. Donc, oui, effectivement, là, on est tous des professionnels.
Okay. Est-ce que c'est lourd pour vous autres? T'sais, répondre au téléphone avec des gens qui veulent mettre fin à leur jour, ça, à long terme, ça doit être lourd.
Bien, effectivement qu'on accueille beaucoup de détresse, mais moi, ce que je trouve beau dans mon travail, c'est aussi toute la résilience qu'on remarque chez ces clients-là qui nous appellent, chez les proches aussi. Il y a beaucoup de beau en prévention du suicide, puis nous, on travaille avec la partie de la personne qui veut vivre, qui est encore là, qui continue de se battre, avec l'espoir, en fait. Moi, c'est ça mon travail.
C'est rare qu'on entend ce pan-là. D'habitude, ça sonne plutôt négatif. Il
faut juste poser les bonnes questions.
T'es tellement bon, Yann, t'es tellement bon.
Vous recevez à peu près combien d'appels par année au Centre de prévention du suicide?
Aux dernières statistiques, je crois que c'est aux alentours de 24 000. Puis on parle de la ville de Québec, le capitale nationale.
24 000.
Oui.
Puis ça, est-ce que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7?
Absolument. Puis par jour, c'est aux alentours de 70 appels par jour ici, capitale nationale.
C'est-tu vrai qu'on peut texter maintenant?
Absolument. Donc depuis octobre 2020, il y a un nouveau service qui a été lancé. suicide.ca. Donc, on peut rejoindre par texto, par clavardage, un intervenant 24 heures sur 24 en prévention du suicide. Puis le numéro par texto, c'est le 53-53-53.
Jasmin Hinz, depuis des années, je te vois passer. Tu t'impliques dans plein de choses. Puis à un moment donné, il est arrivé quelque chose de tragique dans ta famille. Mm-hmm. C'est le décès de ta sœur par suicide. Ouais. Je vais t'avouer que on se connaissait pas nécessairement personnellement. Non, on se croisait à certains endroits, mais... Tu sais, quand ça touche quelqu'un que tu connais, que tu as déjà croisé dans ta vie, tu as comme un certain malaise à parler de ça avec cet individu-là. T'sais. En même temps, tu sauras me dire si ce malaise-là, il a raison d'être. Mais tu sais, quand je t'avais croisé, la dernière affaire que je t'aurais parlé, c'est « Hey, comment ça va, t'sais, ta sœur qui s'est suicidée? » Fait qu'on a comme tout fait. Pour la plupart, là, des gens qui étaient dans ton entourage, je parle pas des gens proches, mais des gens qui étaient un peu à l'extérieur, mais comme tu te dis, on va laisser passer les choses, puis après ça, quand on va leur croiser, on fait semblant de rien. Okay. Fait comme ça, on le fera pas souffrir, Jasmin.
Oui, je comprends.
Tu comprends?
Est-ce tout à fait. Mais c'est
un bon réflexe d'avoir ça, Jasmin?
C'est un bon réflexe. Ben moi, je disais que si je me ramène au funérailles, vous allez voir où je m'en vais avec mes skis, mais c'est que j'ai l'impression que le deuil commence après les funérailles, parce que là, tout le monde reprend sa vie.
Ouais.
Puis on dit un jour, je parlais à Jasmin, puis là, je dis Jasmin, mais ça peut être n'importe quel endeuillé, vous comprenez que j'extrapole, là. Mais c'est qu'après ça, on reprend nos vies, puis là, le temps passe, puis peut-être que, je sais pas, Jasmin, Hinz ou quelqu'un d'autre, elle dit, hey, j'aimerais ça lui en parler un jour. Puis là, finalement, ça fait 2 ans que je me suis dit que j'allais lui en parler, et le temps est passé, puis il y a un tourbillon dans la vie, ce qui fait que, ben je pense que c'est d'y aller comme on le sent, mais j'invite les gens quand même des fois. « Hey, je voulais lui jaser un petit quelque chose. Il y avait quelque chose, tu sais, de trouver le bon moment pour prendre le temps de jaser. » Parce que, tu sais, on se connaît pas beaucoup,
non.
Yannick, mais c'est sûr que il y a des gens qui sont un peu plus proches, il y a des amis, tout ça. Mais j'invite toujours les gens quand même à trouver le bon moment pour adresser les choses ou juste dire « Hey, c'est poche que tu as... » Moi, la chose qui m'a fait le plus de bien... C'est pas nécessairement les grands discours, c'est « Ah, c'est tellement poche, c'est Jasmin! » Ouais. Là, on dirait que « Ok, je suis pas con, je suis pas cave. »
Ça te replonge pas. Tu sais, des fois, il y a des gens qui nous disent
«
Pose pas trop de questions parce que tu vas ramener les gens dans un traumatisme. »
Fait que c'est pour ça que la fois où je t'avais croisé au collège, je me suis dit « J'en parlerai pas parce que c'est lundi, il fait beau, pis ça me tente pas de le replonger là-dedans. »
Non, mais ça peut être un bon réflexe, mais il y a un moment aussi pour le faire, puis il n'y a pas une personne qui est pareille. Moi, je sais que j'étais assez ouvert pour en jaser, puis je sais qu'on ne se connaissait pas beaucoup non plus. Donc peut-être j'aurais fait « Hey, on ne s'est jamais parlé à peu près, fait, tu me parles de ça. »
Mais je regrette une chose, c'est j'aurais aimé ça de dire « Hey, Jasmin, j'ai une pensée pour toi, puis ta famille. »
Ah, merci.
Je pense que je regrette ça.
Ça fait 15 ans, puis ça vient me chercher. Ouais. Donc j'imagine que c'est des mots qui sont...
C'est là que je voulais aller. Ça fait 15 ans, je me demandais si tu peux nous replacer un peu dans un contexte. 2009, ça se peut-tu?
2009, moi, en septembre 2009, ma vie allait super bien. Je faisais de la télé, je faisais de la radio. J'étais dans un band de musique depuis 10 ans avec ma sœur. Puis au mois de septembre 2009, on a sorti notre album. Après 10 ans de travail, un lancement à Québec, à Montréal et dans notre patelin, Victoriaville. Et j'étais en feu. Ah, c'était le baptême du fils de ma sœur. Puis elle m'avait demandé d'être parrain. Et c'est ça. J'avais dit oui, puis tout allait bien. Tout ça en septembre 2009. Et le 11 octobre, ma sœur s'enlève la vie. Donc, ça a vraiment été une montagne russe incroyable. Ça a été une incompréhension.
Étiez-vous proche, j'imagine, qu'à faire de la musique?
On se voyait
ensemble,
3 fois semaine.
Voilà.
On se voyait un peu comme les... Ben pour, c'est pour les gens qui ont connu les années 70, mais les Marie-Claire et Richard Séguin des années 2000, là, on trippait, là, on se voyait un peu.
Jasmin, que pensais-tu du suicide avant que tu sois touché par le suicide d'un proche? Maintenant, qu'est-ce que tu penses du suicide?
Ah, c'est une excellente question. C'est sûr que c'est des phrases qu'on entend déjà, mais je suis convaincu que les gens qui s'enlèvent la vie veulent pas mourir, ils veulent arrêter de souffrir. Ce que j'en pense, c'est sûr que c'est devenu très incarné. C'est comme si tous les mots qu'on entendait à la télévision, dans les entrevues, maintenant, c'est notre quotidien. Mais je pense qu'on est comme ça. Le cerveau humain est fait que... Tu sais, dans ma famille, il n'y a pas de cancer. J'entends parler du cancer. Je sais que ça existe. Mais tant que ma mère ne m'apprend pas qu'elle a un cancer ou quelqu'un de proche, on dirait que...
Tu peux pas le comprendre.
Oui, il y a quelque chose qui ne se comprend pas ou tout ça. Ou comme si, puis là, je vais te peser mes mots, mais comme si moi, ça ne m'arrivera pas.
Mais on est loin de ça.
Je sais pas, puis là, je vais faire attention à ce que je dis, mais je pense que T'sais, on reçoit un appel, « Hey, devine quoi, il s'est passé telle chose, quelqu'un est en vélo, il s'est fait frapper. » On ne pense pas que ça va arriver. Mm. C'est peut-être mieux comme ça, parce qu'on n'a pas chaque jour à se lever avec la crainte que tout nous, va nous arriver. Il y a quelque chose d'important de ne pas avoir l'impression chaque matin de se lever puis que tout peut nous arriver. Mm. Mais quand ça nous arrive, j'ai l'impression que là, tout devient plus vrai que nature. Et c'est là qu'on tombe dans un tourbillon.
Ouais. Alexandra, j'ai le goût de te poser la question. Moi, j'ai eu la chance de jaser en entrevue. Des fois, je faisais des soirées avec le Centre de prévention du suicide, des gens qui s'étaient heureusement ratés, puis qu'aujourd'hui, leur vie va bien. Puis on jasait avec eux pendant 2 heures, pendant 3 heures. Puis il y a des auditeurs qui nous écrivaient en disant « Tabarouette, moi, j'ai pensé aussi à ça un jour, de m'enlever la vie. Moi aussi, ça m'est arrivé. » Les gens se sentaient vraiment interpellés. Mais ce qui me marquait chez les gens qui s'étaient heureusement ratés, c'est ce qu'ils ressentaient avant de l'essayer. Et eux avaient vraiment l'impression que, de par leur mort, la problématique qu'ils considéraient qu'ils étaient autour d'eux allait disparaître, puis ça allait faire du bien aux gens autour d'eux. Moi, ça m'avait frappé. Est-ce que les gens qui pensent au suicide disent « Hey, je suis un boulet pour ces gens-là, puis après ça, ils vont être libérés une fois que je vais être parti. » Ça arrive-tu souvent, ce genre de commentaires-là?
Très souvent. Tu sais, les gens qui ont des idées suicidaires, c'est comme s'ils sont pris dans une espèce de boîte noire. Ils ont des lunettes fumées noires. Ils ont de la difficulté à voir qu'est-ce qu'il y a de positif autour d'eux parce qu'ils sont tellement envahis par cette souffrance-là qu'ils veulent qu'elle cesse qu'ils ne sont pas capables de voir les autres autour. Puis même, ils en viennent à avoir des distorsions cognitives puis à se dire que les gens seraient mieux sans eux.
C'est fou
aussi.
Parce qu'on dirait que c'est fâchant pour l'entourage. Parce que tu te dis, hey, aujourd'hui, on est dans un univers où il y a tellement de ressources. Va chercher de l'aide. Il y en a. Il n'y en avait pas avant. Là. Il y en a, mais tu as raison. On dirait que ces gens-là, c'est comme si cette aide-là n'est juste même pas disponible.
Oui. Mais ça m'interpelle beaucoup parce que moi, j'en parle, puis je fais des petites rencontres, des témoignages. On appelle ça des conférences. J'aime pas le mot, mais tu sais, j'essaie de m'impliquer, sauf que après, des fois, les gens viennent me voir et ils me disent « Ouais, mais Jasmin, il faut comprendre ce qui se passe cette chose. » Puis les gens ne réalisent pas ou ne pensent pas que parce que je fais ça, ben que j'ai jamais vécu. Mais j'ai fait une dépression puis ça m'est déjà arrivé de penser au suicide. Les gens ne pensent pas parce que « Ah, il fait ça maintenant. » Non, attendez, là, tu sais, j'ai vécu. Puis moi, quand j'ai vécu ma profonde dépression, puisque ben c'était 2021, là, parce qu'à Lévis, il y a eu une pandémie, là, je sais pas si...
Oh mon Dieu, cette chose.
Est-ce qu'on m'a dit que ça a dépassé Lévis, là, ça a traversé...
parce que, oui, ben, il y a un moment, j'avoue, j'avais vraiment conduit des œillères, tu disais à peu près ça tout à l'heure, puis j'étais dans mon monde, puis je sais pas, il y avait tout, puis une chance, j'ai eu des formations, puis j'ai jasé avec du monde, puis j'avais l'histoire de ma sœur, une chance, j'ai eu ça, parce que tout mon corps et mon esprit me disaient de rester chez moi, puis de vivre ça tout seul.
Ça t'a-tu permis de la comprendre?
Ça m'a vraiment aidé. Est-ce que ça a permis de comprendre ma sœur? C'est une excellente question. Tu poses bien les bonnes questions ce matin.
J'essaie.
Mais ça fonctionne. Je suis. Je sais pas quoi dire. Je pense que ça a amené probablement une certaine douceur.
Ouais.
Mais ce que j'ai réalisé en m'impliquant au fil des années, c'est que c'est pas parce qu'une personne a fait une tentative de suicide puis une autre à côté qui ont la même histoire. Il n'y a pas une histoire qui est pareille.
Jasmin, est-ce que tu lui en as voulu?
Ah oui. Ah ouais, j'étais en tabarnouche.
Parce que tu sais, souvent, puis j'imagine qu'on t'a tellement posé la question, mais est-ce que tu avais perçu des signes? Est-ce que tu t'es senti coupable? Tu sais, on dirait que tu te demandes probablement quand ça arrive, où c'est que j'ai manqué, là? Puis j'imagine qu'il y a une frustration peut-être qui vient avec ça. Comment tu l'as vécu, cette portion-là?
C'était super intéressant, ça, Audrey. C'est super intéressant parce que dans le deuil par suicide, souvent, on associe la culpabilité. Il y a beaucoup de gens qui se sentent très coupables. Moi, j'étais son frère. Fait qu'on avait une relation de... Tu sais, qu'on s'aime, mais quand on a 12 ans, 13 ans... Ah, t'es con. Non, c'est toi qui es con.
Chien
chat. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on s'aimait. Là. C'était de l'amour. Là, mais
c'était con.
On savait pas comment se le dire. C'est comme... toi, t'es con. Ah non, tu sais, c'était ça, là. Comme plusieurs d'entre nous, là. Et je pense que c'est resté dans ma façon de vivre mon deuil. Parce que moi, j'étais comme... Voyons, t'es bien con. Pourquoi t'as fait ça, t'es con? Alors que mes parents, c'était différent. D'avoir, puis j'ai pas la prétention aujourd'hui de vous arriver avec. Je veux garder quand même mes distances, que c'est pas ma fille. Je comprends pas le deuil d'un enfant. Puis j'aimerais ça laisser ça comme ça parce que c'est quelque chose de complètement différent. Moi, j'étais en tabarnouche, c'est ma sœur. Faites une connerie, si tu fais là. Mes parents, là, c'était différent parce que se sentir mal, je pense que oui. Tu sais, avoir vu un être naître, être la personne qui l'a le plus accompagné pour finalement la voir partir, j'ai l'impression que je comprends tout à fait qu'on peut se sentir coupable parce qu'on a l'impression d'avoir été tout le temps là et on se demande qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent. Mm-hmm.
Serge La Rochelle, c'est un invité que j'ai eu il y a de ça quelques années. Tu es venu me présenter son livre à la radio, puis il m'avait raconté un peu son histoire. On connaît tous Henri Bourassa, là, le boulevard Henri Bourassa. Serge, un soir, était juste à côté de l'hôpital, puis il a décidé que c'était sur ce coin de rue que sa vie allait se terminer. Il a attendu de voir un camion qui descendait Henri Bourassa. Puis il s'est pitché en dessous du camion. Puis heureusement pour lui, le camionneur a réussi à l'éviter. Puis il est passé vraiment entre les roues de la remorque, là. Puis après ça, il s'est relevé. Puis il s'est sauvé parce que là, il a eu la peur de sa vie. Heureusement, il a réussi à faire des livres après ça pour s'expliquer. Mais j'y ai dit, mais Serge, tu sais, moi, je suis quelqu'un d'assez prompt dans la vie, là. J'ai dit, Serge, voyons, sacrément, as-tu pensé au chauffeur de camion? Le gars est en train de conduire, puis il y a un gars qui se pitche devant
le
son char.
Le traumatisme.
Le traumatisme. Je comprends que toi, tu veux mettre fin à tes jours, puis je trouve ça épouvantable, puis je suis content que tu sois là devant moi, mais t'as-tu pensé au gars? Il dit, Yann, on pense tellement pas aux dommages qu'on peut causer
absolument
autour.
Pas.
T'es dans un genre de zone dans ta tête
un
où
trou noir,
il n'y a plus rien qui existe autour. Donc, les gens qui ont eu un proche qui a choisi le suicide ont toujours l'impression de dire « Mais comment ça, il me laisse de même dans l'embarras? Tu sais, j'ai plus mon frère, j'ai plus ma soeur, j'ai plus mon enfant, j'ai plus mon père, j'ai plus ma mère. » Mais ces gens-là, ils souffrent tellement en dedans que les impacts de leur mort,
ils voient pas ça.
Ils pensent même pas.
Ah,
puis son livre est toujours disponible. Je suis allé voir, c'est « Faire face à la dépression », Serge La Rochelle. C'est un super de bon livre.
Moi, je plaide coupable, là, et heureusement, j'ai jamais perdu quelqu'un de très proche par suicide. Par exemple, j'avais une de mes meilleures amies plus jeune, son copain de l'époque, son père s'est enlevé la vie. 11 ans après que son frère jumeau s'était enlevé la vie, puis ça avait été quelque chose d'assez frappant. Puis je me souviens que j'avais la mauvaise habitude de dire que c'est lâche. Moi, je trouvais ça lâche. J'en revenais pas. Je me disais, on a des ressources, t'as des gens qui t'aiment. On dirait que j'avais une frustration qui était, mon Dieu, incontrôlable face à ça, jusqu'à ce que tu vives peut-être toi-même justement un épisode où c'est plus difficile, puis que là, tu réalises que, OK, il y a une détresse. Jasmin, j'ai une question à laquelle tu n'es pas obligé de répondre, OK? Parce qu'aujourd'hui, on parle, bon, de suicide avec le Centre de prévention du suicide dans le cadre du programme « Et moi, comment ça va? » C'est un programme qui s'adresse aux adultes, principalement aux hommes de 35 à 65 ans, parce que souvent, on dit que les hommes attendent d'être au bout du rouleau avant de lever la main, contrairement aux filles peut-être qui font plus attention à leurs émotions. Et là, je généralise beaucoup.
Ils ont un plus grand cercle social aussi, les filles.
J'ai comme envie, pour encore une fois sensibiliser les gens à l'impact que ça peut avoir puis à tout ce qui est autour, peux-tu nous raconter peut-être un peu comment tu as appris cette nouvelle-là du décès de ta sœur, le contexte, si tu es à l'aise, là? Je ne veux pas te replonger non plus.
Je l'ai appris. On la cherchait. Elle était dans le coin. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si tu veux concrètement savoir comment je l'ai appris, elle était passée une fin de semaine, un dimanche soir à Magog. Moi, j'étais à Québec. Et là, on m'apprend. Même si je savais que ma sœur avait ses enjeux là, de santé. Elle avait déjà fait une tentative dans le passé.
Okay.
Puis on dirait, comme on disait, mais c'était pas encore arrivé. Tout à l'heure, je parlais du fait qu'on dirait que tant que ça nous arrive pas, on pense pas que ça
parce
nous arrive à
crée.
Nous. Ben, ma mère m'appelle, puis dit, là, Jasmin, je te dis qu'on cherche Marilyn. T'sais? Puis une mère quand même bienveillante, là, qui est pas là, Jasmin, on cherche Marilyn. Mais là, je suis son autre enfant.
Ouais.
Fait que moi, après ça, j'en allais, puis je fais, elle était là, OK, je vais parler à mon fils. Là, Jasmin, Marilyn, on la cherche. C'était vraiment comme ça. Je fais, OK, ben oui, on la cherche. Puis ma sœur, là, c'est un peu une bohème, tu sais, avoir un champ un vignoble, puis elle dit, je vais aller courir dedans pendant une heure, puis je reviens plus tard, puis là, reviens, on sait pas où. Bonjour tout le monde, je suis parti pendant 3 heures finalement. C'est un peu. Fait que ça, il aurait pu avoir quelque chose comme ça, qui l'interpelle un papillon, ou je sais pas. mais là, le lendemain, le lendemain matin, pas encore là. Fait que ma mère me dit, hey, Jasmin, et moi qui est un peu naïf là-dedans, va donc. T'sais, parce qu'il y avait son chum et le petit bonhomme et le père de son chum qui était là. Va donc avec eux, là, prendre le pouls, t'sais, être là, peut-être être là. T'sais, OK, ben oui, j'ai du temps, je vais y aller. Fait que j'y vais. Et c'est là que maintenant on reçoit un appel. Puis c'est la mère du chum, parce que je ne vais pas le nommer, là, il est pas, c'est la mère du chum de ma sœur. Et ça, ça avait été quand même quelque chose. Parce que elle a changé, son fils a pris l'appel, je ne sais pas si je suis clair, mais la mère appelle, puis son fils prend le téléphone. Et elle a changé sa voix. Parce qu'elle n'était pas capable de dire à son fils qu'il arrivait. Fait qu'elle a voulu, elle a demandé que quelqu'un d'autre prenne le téléphone. Et c'est là que c'est le père qui a pris le téléphone, puis que là, ils ont parlé un peu. Puis le père est revenu, puis il nous a dit, elle est morte, elle est décédée. Puis là, je me suis mis à courir partout, puis à sauter, puis à crier. Je me souviens de ça. J'ai comme « Ah! 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 » Puis là, j'ai appelé mes parents. C'est moi qui voulais l'apprendre à mes parents. Puis après ça, j'ai su, tu sais, on en a parlé un peu. Là, après ça, ils ont vécu, je pense, entre eux un moment, mes parents ensemble, là, qui leur appartenaient par rapport à tout ça. Mais j'avais le goût de leur apprendre. J'avais le goût que ce soit moi, puis de faire ça ensemble.
Que ça reste un peu dans la famille.
Oui, c'est ça.
Plus personnel.
C'est ça. Puis après ça, on a senti beaucoup de support là, tout de suite de plein de monde. Puis... Est-ce que ça répond à ta question?
Absolument. Puis je voulais pas. En quoi ce deuil-là a changé ta perception de la vie, de la santé mentale, de toi-même avec les années?
Ah, mais ça a tout changé. Ça a complètement tout changé. C'est sûr. Sur beaucoup plus de nuances, beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus de. J'allais dire de compréhension, mais c'est pas vrai. Beaucoup plus la compréhension que je comprends rien. Puis qu'on n'a pas toutes les réponses. Puis moi, aujourd'hui, je peux dire que, malheureusement ou heureusement, et là, je suis pas en train de dire que rien n'arrive pour rien, s'il vous plaît. Mais ça m'a laissé quand même un super pouvoir. C'est, je peux donner un exemple pour dire, moi, je travaille, je coach entre autres un danse-étude au secondaire. Puis les filles, tu sais, j'ai une quarantaine de filles, quelques gars, tout ça, mais tu sais, je pense qu'ils sont pas trop au courant, mais moi, je me suis rendu compte que quand j'ai une élève qui va pas très bien, au tabarouette, si on utilise juste 10% de notre cerveau, je vous jure qu'à ce moment-là, c'est 100% de mon cerveau qui est ouvert pour trouver des solutions. Je parle à tout le monde. Je suis créatif. Je suis connecté vraiment sur elle, tu sais, sans trop en faire, mais j'essaie vraiment d'être là pour elle. Et ça, je sais que ça vient du fait que je ressens une détresse, ça me fait penser un peu à ma sœur, puis ça libère en moi une espèce d'énergie qui a le goût de faire une différence. Fait que ça m'a changé aussi, puis ça m'a donné ce super pouvoir, évidemment. Là.
Alexandra Loranger, avec le Centre de prévention du suicide de Québec, vous adressez aux hommes comme aux femmes. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a plus de gars qui passent à l'acte que de filles?
Ben, il y a certaines choses qui l'expliquent là, un peu plus.
Ouais.
C'est sûr que bon, la tranche d'âge qui nous inquiète le plus, hein, qui est surreprésentée dans les décès par suicide, c'est les hommes de 50 à 64 ans. Donc, c'est les hommes qui, généralement, vont véhiculer aussi des valeurs un peu plus traditionnelles. Tu sais, le fameux « un gars, ça pleure pas, faut s'organiser tout seul ». Si on est là-dedans, si c'est comme ça qu'on a grandi, ben par défaut, ça va être bien plus difficile de demander de l'aide. Puis on sait aussi que les hommes utilisent des moyens qui sont plus létaux que les femmes. Donc, on a un peu moins de chances d'intervenir avec les gars, entre autres, là, en lien avec ces deux grands éléments-là.
Est-ce qu'il y a des programmes spécifiques pour les hommes au Centre de prévention du suicide?
Des programmes spécifiques...
Le programme « Et moi, comment ça va? »
Et moi, comment ça va? Ben, avant, il était vraiment centré seulement sur les hommes.
Ouais.
Maintenant, on l'élargit un petit peu plus parce qu'on veut s'adresser vraiment à une population générale. Mais bien entendu, on va cibler les entreprises qui ont peut-être un petit peu plus des hommes traditionnels aussi là, parmi eux. Là. Entre autres...
Je sais pas pourquoi tu viens me voir.
C'est ça.
Parce que moi, je suis de cette génération-là.
Ouais.
T'es un gars, t'es supposé de gérer tes affaires. Puis bien souvent, j'ai des chums aussi qui ont des émotions, puis ils ont tendance à le passer soit dans le sport, ce qui est assez sain, là, mais des fois, c'est dans l'alcool. Des fois, c'est dans la drogue, que ce soit le weed ou encore d'autres drogues pour relaxer. Mais c'est pas nécessairement les meilleures façons de se libérer de ses angoisses puis de ses démons. Là.
Ben c'est des moyens parmi tant d'autres. Puis on dirait que j'ai le goût de réagir avec une petite anecdote. Peux-tu me permettre
ben oui,
de
ben
faire
oui,
ça?
Ben oui, c'est toi qui qui mène. C'est toi qui mène.
Ben récemment, moi, j'ai pas d'enfants, mais j'étais avec des amis qui ont des enfants, puis on était dans un parc. Puis je voyais une maman avec ses deux jeunes enfants. Il y avait un petit garçon, une petite fille de peut-être 3-4 ans, là, tu sais, des jeunes enfants. Puis le garçon et la petite fille se sont chicanés, se sont fait mal mutuellement. Puis la façon dont on a réagi avec la petite fille puis avec le petit gars était complètement différente. La petite fille, on l'a pris dans nos bras. On lui a dit, ben voyons, ma belle, c'est pas grave, tu peux pleurer, on l'a cajolé. Puis le petit gars, ben on lui a dit, hey, on lui a secoué un peu les pantalons, là. Puis on a dit, c'est beau, tu peux retourner jouer. Puis ça s'est passé pas plus tard que la semaine passée. Avec une maman qui est probablement de ma génération aussi, donc fin vingtaine, début trentaine, qui on est de plus en plus ouvert, mais déjà, ce petit gars-là, la mère a fait de son mieux, là.
On le conditionne.
Mais on est en train de dire que tu peux pas vivre tes émotions, puis quand t'as mal, c'est pas grave, tu continues. Mais on dirait que ça m'a frappé quand même de mm-hmm. voir ça. Fait que dès la petite enfance, puis ça, c'est comment on a été élevé, comment mm-hmm. on transmet aussi, mm-hmm. mais juste ça, pour moi, ça va peut-être être un prédicteur pour ce petit gars-là qui va peut-être avoir un petit peu plus de misère à accepter ses émotions, puis il aurait peut-être aimé ça aussi. D'avoir un câlin, puis de prendre un petit 2 minutes pour pleurer un peu, puis continuer à jouer bien normalement après aussi, tu sais.
Mm. C'est super intéressant parce que, tu sais, si je me ramène à quand j'ai fait ma dépression, tout ça, puis il y avait vraiment quelque chose où il y avait une voix qui me disait « Non, reste seul. Sois là tout seul, chez toi. Tu sais, c'est tes affaires. » Et je sais pas si c'est... ou génétique, de la façon que mon cerveau, avec la testostérone, s'est construit, ou et l'éducation, ou un peu des deux. Mais ce dont je suis sûr, c'est que si vous vous sentez comme ça, comme je me suis senti, comme des milliers de personnes peuvent se sentir, goffy, là, on n'est pas, tu sais, ben c'est important de passer par-dessus cette conviction-là que vous avez du moment que je vais faire tout ça tout seul.
T'sais. C'est la peur de déranger peut-être autour aussi ou de... Tu sais, des fois, tu veux pas tanner tes amis, tu veux pas tanner ta famille, tu te dis, c'est une pause, là, je me mettrai pas à me plaindre. Là.
Ouais, mais en tout cas, de ce que j'en ai vécu, c'est ça, je pense que tu réfléchis plus beaucoup quand t'es rendu là. Je pense même là, ton discours est assez cartésien. Je pense que si t'es capable de faire, hey, là, je veux pas déranger, ben là, t'es encore conscient, mais tu sais, c'est juste que, tu sais, moi, je suis un peu manuel. Mm-hmm. Fait que moi, j'ai une voiture, là, puis des fois, elle fonctionne moins bien. Fait que là, je bidouille des trucs, puis ça va bien, tu sais. Mais mon char, je suis capable de le bidouiller. Mais là, on parle de nos vies, là. Fait que bidouiller ma vie tout seul avec peut-être faible pourcentage que ça passe. Là, si on parle de nos vies, là, je pense que ça vaut la peine... De prendre toutes les chances.
Puis qu'est-ce qui t'a aidé, toi? T'sais, que ce soit après le départ de ta sœur ou que ce soit après ta dépression en 2021, quel cheminement t'as fait, par où t'es passé?
Ah, oh, wow! Est-ce qu'on a 1h30? non,
on
c'est
a
ça.
Encore du temps.
Oui, c'est ça. Okay, répète ta question. Ouh, namasté.
Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ton cheminement, que ce soit quand t'es tombé un peu plus bas après le décès de ta sœur ou en 2021 après ta dépression, parce que tu l'as dit, on est peu conscient, on s'isole. Faut que tu cesses de t'isoler à un moment donné. Fait qu'il a été où le déclic? Où est-ce que t'es allé chercher cette aide?
Les autres. Ça a été vraiment les autres. Ah, puis une chose que je dois vous dire, le petit bonhomme, là, son petit bonhomme à Marilyn, ma sœur, il est incroyable. Et c'est drôle parce que, encore là, réaction d'adulte, orgueilleux, quand les funérailles sont passées. Tu sais, il y avait 14 mois quand sa mère est décédée. Et là, on était là, puis on le regardait, puis on disait, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va lui arriver? Ah, chienne de vie! Chienne de vie! Hey, il avait une capacité d'adaptation beaucoup plus grande que la nôtre. Tu sais, c'était la vie qui continue. Dès qu'il était là, il n'y a plus rien d'autre qui existait. Puis il nous ramenait à « J'ai faim! » Hein? Ah, bon, il faut changer la couche. Tu sais, c'était la vie.
C'est le moment présent.
C'est le moment présent. Et c'était, et je le dis encore une fois, merveilleux. C'est le dernier souvenir vivant de ma sœur. Mm. Et ce petit gars-là, il nous a tous sauvés. Fait qu'au début, on était là, qu'est-ce qu'on va faire? Finalement, ce qu'on se disait, c'est, j'ai de la peine. Mais je suis un adulte, j'ai trop de couches d'oignons, d'orgueil, tout ça. Fait que là, OK. Mais finalement, tu sais, le petit bonhomme qu'on voulait aider parce que c'est lui qui avait le plus de besoins, hey, il m'a pas mal plus aidé, moi, que je l'ai aidé au final. Mm.
Alexandra, le taux de mortalité par suicide, c'est deux fois plus élevé que le taux de mortalité sur les routes. Le suicide, on l'a dit tantôt, ça fait pas vraiment de distinction. Là, ça touche toutes les catégories d'âge et ça touche toutes les classes sociales. Avec le Centre de prévention du suicide, bon, vous offrez une ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les gens qui filent vraiment pas. Vous soutenez aussi les personnes qui sont endeuillées par le suicide, comme Jasmin, et vous formez des sentinelles. Puis j'entends Jasmin présentement, il parlait de ces jeunes étudiantes là, qui vont à l'école avec un cours de danse, de ce que je comprends. Ouais, Jasmin est devenu un sentinelle. Il regarde constamment autour de lui à savoir s'il y a des gens qui vont et à savoir s'il y a des gens qui ne vont pas. Des fois, ça peut être achalant. Mais, mais quand il tombe sur la personne qui ne file pas, je veux dire, Jasmin représente tout pour cette personne-là parce qu'il y a quelqu'un de ressource qui est là pour les aider. Les sentinelles, vous formez ça comment?
En fait... Bien, pour devenir un sentinelle en prévention du suicide, la porte d'entrée, c'est vraiment de communiquer avec nous. Fait qu'à ce moment-là, on pourra inscrire la personne dans une cohorte de formation, là. Donc, c'est une formation de 7 heures. Donc, c'est une journée où l'objectif vraiment de la formation, c'est en premier lieu de prendre le temps de démystifier c'est quoi le suicide. C'est quoi aussi nos croyances, nos valeurs, parce que ben on a tous des biais sociaux hein, en lien avec le suicide, parce que ben les statistiques nous le disent, hein, un Québécois sur 10 par année va être touché de près ou de loin par la problématique. Fait que c'est sûr que à quelque part, il y a quelqu'un dans ces groupes-là qui a une espèce de sensibilité un peu plus grande de par son vécu aussi. Fait que, ensuite, ben, on se permet de placer c'est quoi les croyances, de voir un peu plus comment ça se traduit pour vrai. T'sais, chez quelqu'un qui pense au suicide, puis encore là, on n'a pas la prétention d'être des experts dans le sens où chaque personne qui pense au suicide est différente d'une autre aussi. Là.
Mais pas un manuel.
Ben non, malheureusement. On aimerait donc ça qu'il y ait un visage sur le suicide pour qu'on soit capable de les trouver rapidement, puis arriver à un Québec sans suicide, là, sans SNS, là, bien entendu. Là. Puis, à la suite de ça, ben, c'est là où on va regarder c'est quoi les meilleures techniques pour ouvrir la discussion avec quelqu'un qui ne va pas. De voir comment on peut ouvrir cette discussion-là, puis c'est quoi les meilleures pratiques aussi pour aller poser la question.
Est-ce qu'on peut appeler le centre de suicide, Alexandra, pour ça? Moi, mettons, j'ai un proche demain matin qui je vois que ça ne file pas, puis je m'inquiète profondément. On peut-tu venir prendre conseil? Parce que honnêtement, je m'inquiète pour Yann demain matin, j'ai aucune foutue idée de comment aborder ça de façon délicate, là.
Absolument. Bien, on n'a même pas besoin de s'inquiéter profondément, j'ai envie de dire. S'il y a une petite lumière qui nous allume en tête, puis qu'on se dit « Ah, j'ai l'impression que cette personne-là ne file pas », prenez le temps de nous appeler, on va se déposer ensemble. On va prendre le temps vraiment de regarder qu'est-ce qui vous inquiète, comment ça vous faites ces liens-là. Ensuite de ça, on va donner des conseils justement sur c'est quand le bon moment d'ouvrir cette discussion-là. Puis en fait, il n'y a pas vraiment de bon moment non plus. On va regarder qu'est-ce qui est le moins pire, j'ai envie de dire. Puis ensuite, bien entendu, on va faire aussi un petit suivi avec le proche. Là. On ne voudra pas le laisser tout seul à aller poser cette question-là à son ami.
On va se le dire, il y a une peur des fois d'aborder ça avec des proches parce qu'il y a des gens qui se referment. Il y a des gens qui sont comme des huîtres quand tu les exposes à ça. Là, on dirait qu'ils ne veulent plus s'ouvrir. Moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Là. Et la panique. Parce que là, tu viens de perdre le contact avec cette personne-là, elle ne veut plus te parler. Tu l'as comme insulté en voulant aider à un certain point. Là. Fait qu'on dirait
c'est
touché. Là. Fait que de savoir qu'il y a une ressource qui peut peut-être nous aider un peu à mettre les bons mots puis à avoir la bonne approche. Alexandra, j'ai envie de te demander, tu sais, souvent on demande aux gens de faire des dons. Des dons pour plein d'organismes tout le temps, puis on a besoin des dons parce que sinon on serait pas capable d'aider les gens à différents niveaux. Mais peux-tu nous dire concrètement justement cet argent-là qu'on donne au Centre de prévention du suicide sert à quoi?
T'es payé comment? Ça fait 10 ans que tu travailles pour le Centre de prévention du suicide. Ton argent vient d'où?
Oui. Si vous me permettez, j'aimerais juste ça, rediscuter du commentaire que tu as nommé, Audrey,
absolument,
juste avant. Parce que je voudrais pas qu'il y ait des gens qui restent avec... je vais peut-être créer une réaction négative si j'ouvre la discussion.
Bon,
parce que c'est un mythe, en fait, qu'on véhicule en ce moment.
Bon.
Les gens, tu sais, qui pensent au suicide, en grande majorité, ils se sentent seuls, ils se sentent pris, ils vivent de la honte aussi en lien avec leurs idées suicidaires. Puis plus souvent qu'autrement, quand on se permet d'ouvrir la discussion, de bien ouvrir la discussion, il y a une espèce d'effet de soulagement, de « Ah, je peux pas vivre ça toute seule, je peux partager ça avec quelqu'un d'autre. » Parce que les gens, on entend, hein, tout ce qui... Ils sont conscients de c'est quoi la pensée populaire en lien avec le suicide. Tu l'as dit tantôt, toi, tu croyais que c'était lâche. Mmh. On entend aussi des fois, c'est du monde qui veut juste attirer l'attention ou pour certaines personnes, ça peut être courageux même, le suicide, mais c'est pas du courage, c'est pas de la lâcheté, c'est pas d'attirer l'attention, c'est quelqu'un qui vit un profond malaise puis qui a besoin d'aide.
Ouais, je regarde les commentaires, là, t'sais, la vie n'a plus aucun sens, bientôt je vais avoir la paix, je serai peut-être mieux mort, la vie en vaut pas vraiment la peine, la vie ne m'apporte aucun plaisir, je suis fatigué de la vie, je veux en finir, je n'ai plus de raison de continuer. Ces mots-là sont juste hallucinants à entendre, mais c'est un indice comme quoi on peut appeler la ligne du centre de prévention du suicide. Ouais. On veut...
Attendre. Ouais. Excuse-moi, ne pas attendre d'être rendu dans le vortex où là, on réfléchit moins.
Exact.
Mais si vous sentez, là, t'sais, si vous avez des doutes, je devrais être appelé. Ouais. Appelez! La question est là. Oui, des fois, on ne veut pas déranger. Appelez, faites-le.
C'est confidentiel. Ouais. C'est confidentiel. Puis, dans le pire des cas, ça va vous prendre un peu de temps.
Appelez ou texter. T'sais, appeler ou texter. Ouais. Moi, je serais plus du genre à texter. Mais appeler ou texter, moi, ce que je veux savoir, bon, toi, tu travailles là depuis 10 ans. Vous avez une ligne téléphonique pour les gens de la grande région de Québec. Ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a plein de programmes auxquels vous participez. Vous avez des employés. Vous faites comment pour être financé?
Bien, le fun avec la prévention du suicide, entre guillemets, là, fun, là, c'est que c'est une cause un peu sexy, là, dans le sens où c'est à l'avant-plan dans tous les projets du ministère de la Santé et des Services sociaux. On l'a dit, c'est une des plus grandes causes de mortalité au Québec. Fait que, bien entendu, on est chanceux, on a quand même du financement qui est récurrent. Fait que c'est en partie financé par le gouvernement, bien entendu. Cela dit, tous les services qui sont offerts aux endeuillés, là, entre autres, le suivi, le groupe aussi, parce que je ne l'ai pas nommé tout à l'heure, mais on offre un groupe pour les gens qui sont endeuillés par suicide. Bien ça, c'est directement financé avec vos dons. En fait. Donc, ça vient de la fondation. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les dons? Bien entendu, on finance les services de deuil. On finance aussi nos programmes d'activité, entre autres, Et moi, comment ça va? On finance aussi les programmes qu'on offre dans les écoles secondaires parce que, bien entendu, on va aussi chercher nos plus jeunes. Puis, en ce moment, on n'en a pas parlé. On en a parlé un petit peu avec la gang de Dollars le matin la semaine passée, par exemple. Mais... en ce moment, une des stats qui est préoccupante, c'est nos jeunes filles, les adolescentes.
Ah ouais.
C'est une statistique qui émerge de plus en plus. C'est ce groupe de population-là qui se présente le plus dans les hospitalisations pour des blessures auto-infligées.
Donc, je peux aller sur Google, taper « Centre de prévention du suicide de Québec », puis là, il y a « Aider les services, l'actualité, les à propos de la fondation ». Toutes les informations sont là, mais il y a surtout un beau petit piton vert, c'est écrit « dons ». Puis on peut faire plusieurs types de dons. Les dons généraux, des dons en mémoire, des dons pour des dons par chèque. Les gens qui désirent payer par chèque, c'est possible. L'adresse est là sur le Centre de prévention du suicide de Québec. Vous faites des choses qui sont absolument formidable. Puis, Jasmin, que tu continues comme ça après 15 ans à t'impliquer puis à être une sentinelle pour nos jeunes filles. T'as-tu des défauts, toi?
Ah, j'en ai plein.
Quand je te regarde, là, quand je suis à côté de toi, je te trouve gossant.
Ah ouais, c'est mutuel. Parce que je trouve que tu fais super bien ta job, puis c'est super le fun.
Mais là, mais t'as-tu des défauts, des têtes depuis 15 ans? C'est incroyable ce que tu fais. Je te félicite de t'impliquer comme ça.
Ça fait plaisir. Puis, sachez que appeler, tu sais, Alexandra, je terminerai avec ça. C'est quoi? C'est 99,99% des gens qui appellent, puis, tu sais, qu'ils le font pas, là. Ça vaut la peine d'appeler. Ça fait une immense différence. Puis, il n'y a jamais de petite raison pour appeler. Allez-y.
Textez si vous êtes gêné.
Ouais. Aller chercher de l'aide, c'est toujours la bonne solution.
J'ai envie, Jasmin, de te poser une dernière question parce que c'est revenu beaucoup sur le Twitch et par texto par rapport au deuil.
Ouais.
Puis, je ne sais pas à quel point le Centre de prévention du suicide est là-dedans. Je sais qu'il y a Deuil Jeunesse, il y a plein d'autres organismes qui aident par rapport au deuil, mais il y a quelqu'un qui nous demande, le deuil, est-ce que c'est long et comment le faire et comment le gérer? Je pense que chacun a son processus pour ça. Peut-être donner ta réponse personnelle à ce niveau-là.
Oh wow, comment le gérer? J'ai pas été... C'est pas parce que je m'implique que j'ai été bon nécessairement.
Non, je pense qu'il y a personne qui est bon, ça peut te rassurer.
C'est ça, des fois on est là, puis... Moi, les pensées magiques, les phrases toutes faites, ça m'énervait. Moi, ce qui m'a aidé, c'est que je me suis écouté d'abord, puis je pense que j'ai réussi à trouver ce qui me faisait du bien. Et j'ai une phrase, quelqu'un qui me disait, « Jasmin, essaie de trouver une chose qui te fait du bien par jour. Puis des petits bonheurs de rien, là, ça pourrait être un bon café. » Moi, on s'en fout là, de comment tu passes à travers ta journée alors que tu vis un deuil, puis que t'es, moi, j'appelle ça un peu dans l'abysse, puis tu vois pas la lumière, puis tu cherches, mais t'en vois pas la lumière, fait que tu patauges, puis t'attends. Bien, si vous êtes capable de trouver des petits bonheurs, bien, la journée va passer, puis le lendemain, il va y avoir une autre journée, puis ça va continuer. Puis moi, là, c'est pas obligé d'être, je vais faire de l'humanitaire en Haïti, ou je vais vivre un... Si aller t'entraîner, puis te faire des pecs, ça te fait du bien, puis ça donne un sens à ta journée, vas-y. Si de prendre un bubble tea, tu sais, des fois, on cherche les grandes façons de se remettre sur les rails. Puis des fois, c'est les petits détails. Regardez un match du Canadien ou des Nordiques en reprise.
Ouais.
Si c'est ça, vas-y. L'important, c'est d'avoir une petite lueur puis de la trouver.
Si tu me permets de faire du pouce sur ce que tu dis, Jasmin, là, je pense qu'il n'y a pas de temps. Là. Je pense que tu peux être en deuil toute une vie parce que cette personne-là va te manquer ici et là de toute manière. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis dans les petites choses parce que souvent, j'ai connu des gens qui ont eu le réflexe de boucher le trou. Travailler plus, essayer de combler ce trou-là. Puis moi, il y a un an, j'ai perdu trois personnes en dedans d'un mois et demi. Des gens plus proches que d'autres là-dedans. Puis je sais que le deuil ne sera jamais terminé, mais s'il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que c'est le moment où j'ai comme accepté de peser sur pause puis de, je m'excuse, là, mais de crisser mon camp trois semaines. Pour rien faire de particulier, là, d'en boire une shot, de faire justement ces petites choses-là, de quitter ma vie le temps de trois semaines, de mettre une pause, là, d'arrêter le temps, là, puis de prendre le temps d'avaler puis de réaliser ce qui venait de se passer. Là. Souvent, on ne le fait pas. On a une tendance à vouloir, au contraire, reprendre la vie le plus vite possible parce qu'il faut qu'elle avance, il faut qu'on travaille, il faut qu'on est au sport des enfants, faut qu'on... ça va vite, tu sais. Mm-hmm. Fait que je trouve ça intéressant ce que tu dis quand tu parles des petits bonheurs. C'est cliché, mais c'est vrai.
Ben, tu sais, on peut s'en... Tu sais, des fois, je comprends. Moi aussi, il y a des moments où ça m'a fait du bien de m'engourdir.
Ben oui.
Tu sais, pendant 2-3 semaines, j'avais pas le goût de penser. Moi, je me suis lancé dans la danse swing acrobatique.
Incroyable.
Ouais, parce que ma sœur avait aucun talent en danse, en fait. Wow. Fait que j'ai l'impression, bon, et puis là, maintenant, je vais faire quelque chose qu'elle n'était pas capable de faire. Tiens. j'ai été champion canadien. Non, mais tu sais, je me suis donné à fond là-dedans. Mais je pense que de s'engourdir pendant 2-3 semaines, faire des choses, pourquoi pas?
Ouais,
mais d'avoir des fois à sentir que OK, là, je vais aller visiter mon deuil un peu. Ben, d'avoir le guts de le faire, je pense qu'aussi, ça vaut la peine. Ouais. Puis de le faire entouré, comme on disait. Peut-être pas vivre son deuil tout seul dans son coin, ça peut isoler tellement. Tu sais, il y a des gens qui vivent ça avec nous. Moi, mes parents avaient de la peine. Les gens autour de moi avaient de la peine. Puis au lieu d'être comme OK, ben moi, ma peine est différente des autres, non, on a une peine commune. Puis on peut la vivre ensemble. Mmh. Ça peut faire du bien aussi.
Exact. Jasmin Hinz, endeuillé du suicide de sa sœur. C'est ton titre?
Oui.
Alexandra Loranger, qui est formatrice intervenante à la Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec. Je te remercie pour toutes ces années de service-là. Merci aussi à Jasmin. Mais salutations à toute la gang du Centre de prévention du suicide. Vous travaillez extrêmement fort. Vous avez votre raison d'être. Puis vous n'avez pas idée à quel point vous aidez des gens. On invite les gens qui peuvent donner un don au Centre de prévention du suicide de Québec à le faire. Ça peut se faire via le site Internet. Tapez juste Centre de prévention du suicide, vous allez tomber dessus sans aucun problème. Sinon, si vous avez des difficultés d'un bord comme de l'autre, vous y pensez, vous avez quelqu'un qui y pense, c'est 1-866-APPEL. Donc, 1-866-277-3553. Ouais. C'est 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Si vous êtes un peu gêné comme moi, ben c'est possible de texter tout simplement et de clavarder directement si vous allez sur Internet. Donc, un gros merci. Merci d'être passé.
Ben, merci.
Ben, Yannick, Audrey, Boulevard, merci beaucoup. Puis bravo au Centre de prévention du suicide. Moi, je fais une petite conférence que je promène des fois, là. Mais vous, c'est à chaque jour. Puis après ça, vous retournez chez vous, puis vous avez une vie, là. Puis il faut mettre ça. Ben non, mais c'est ça, moi, je trouve ça. C'est eux, les super-héros.
Oui.
Puis, donc, bravo pour ce que vous faites. Puis on les encourage. Ça vaut tellement la peine.
En même temps, ben, merci à vous autres, parce que vous faites la prévention du suicide avec nous aussi. De nous inviter comme ça, de vous allier avec nous. Merci. C'est important, puis tantôt, je vous entendais parler de ça fait combien, ça prend combien de temps, puis tout ça, puis vous avez tellement bien répondu, vous pourriez faire ma job. Mais effectivement, il n'y a pas de temps, puis l'important, c'est de s'accorder des moments de break.
Ouais. J'ai-tu le droit de faire des jokes plates, mettons que je prends la ligne la nuit, là? Ben...
Oui, mais peut-être qu'on rira pas, là.
Mais... risque et péril.
Ouais, on espère qu'il y a des gens qui nous appellent pas en faisant des fausses tentatives, par exemple.
Non, mais je parle comme intervenant, je pourrais faire ça, mais...
Oui, c'est ça.
Oui, allô, j'écoute. J'imagine que ça va pas!
Oh my God!
Vous seriez étonné quand même, hein, parce que la prévention du suicide, pour moi, c'est beau. Puis on rit avec des gens qui sont en crise aussi. On peut rire en parlant de prévention du suicide. C'est important.
Un gros merci d'être passé.
Merci à vous.
Merci.
Allez, bye bye.